d'aujourd'hui. À Washington.
Manila Kiza avec vous dans cette édition du vendredi 22 avril 2022. Au sommaire, aux États-Unis, aux funérailles de Patrick Yoya, jeune réfugié congolais tué par la police, le célèbre révérend Al Sharpton appelle à identifier le policier. Au Niger, le Parlement approuve la présence de forces étrangères pour combattre le terrorisme. Les négociations entre la Russie et l'Ukraine patinent, affirme le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. En France, fin aujourd'hui de la campagne pour le second tour de la présidentielle avant le scrutin de dimanche. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports, mais d'abord le journal. Les funérailles de Patrick Yoya, jeune réfugié congolais tué début avril par un policier blanc, se déroulent aujourd'hui à Grande Rapide, dans le nord des États-Unis, sur fond d'appel à ce que le nom de l'agent impliqué soit rendu public. Plusieurs personnalités de la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis ont fait le déplacement. Les précisions de notre envoyé spécial, Marius Mouhunga.
Ça ne peut pas s'arrêter aujourd'hui. Nous devons nous battre pour lui. A lancé le célèbre révérend Al Sharpton, figure africaine-américaine de la lutte des droits civiques, en prononçant l'oraison funèbre de Patrick Yoya, comme il avait fait pour George Floyd, autre africain-américain tué par la police en 2020. Al Sharpton a également appelé la police de Grand Rapids à rendre public le nom du policier impliqué, placé en congé administratif, en attendant les résultats de l'enquête menée par la police de l'État de Michigan. Est-ce le Michigan en 2022 ou le Mississippi en 1952, s'est écrié le révérend, en référence de l'ancien État ségrégationniste du Sud. Monsieur Yoya, 26 ans, a été tué lors d'un contrôle routier à Grand Rapids le 4 avril dernier, drame en date d'une longue liste de personnes noires tuées par des policiers aux États-Unis.
Marius Mouhunga, notre envoyé spécial dans le Michigan. Les députés nigériens ont approuvé vendredi la présence de forces étrangères pour combattre les djihadistes dans leur pays à l'issue d'un vote. Les détails avec Abdulrazak Idrissa.
Sans surprise, les députés de la majorité représentant plus de 4/5 du Parlement ont approuvé la proposition du gouvernement consistant à modifier la déclaration de politique générale du gouvernement présentée par le Premier ministre pour y inclure la possibilité pour le Niger de nouer des alliances, d'accueillir sur son sol et de faire participer des forces alliées pour lutter contre le terrorisme. Pour les députés de l'opposition, c'est une aberration et une violation de la Constitution. Omar Hamidou.
Le peuple nigérien sait maintenant ce qu'il a à faire. On sait qu'on n'attend plus rien de ce gouvernement. Donc la seule volonté, la seule ambition, c'est de ternir l'image de notre démocratie. C'est de faire souffrir le peuple. C'est pourquoi nous opposerons à eux, vaille que vaille. Nous devons ensemble descendre dans la rue pour dire non à ce gouvernement qui trahit continuellement les institutions du peuple.
Un rappel, c'est suite au retrait annoncé des forces françaises Barkhane et européennes Takuba du Mali que le redéploiement de ces forces a été envisagé et le président de la République Mohamed Bazoum a décidé pour ce faire d'engager devant le Parlement la responsabilité de son gouvernement, la question faisant polémique depuis quelques années. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Le Niger bénéficie du soutien de plusieurs pays occidentaux, dont la France et les États-Unis, qui ont des bases militaires à Niamey dans la région d'Agadez. Des ONG nigériennes dénoncent également cette présence de militaires étrangers qu'elles considèrent comme des forces d'occupation et une menace pour la souveraineté du pays. L'armée française a filmé ce qu'elle affirme être des mercenaires russes en train d'enterrer des corps près de la base de Goussi dans le nord du Mali. Selon elle, les images postées sur le net vise à accuser les soldats français d'avoir caché un charnier avant de remettre la base française d'Ogossi à l'armée malienne. Une enquête a été ouverte en Côte d'Ivoire après la mort d'un éleveur et de son troupeau d'une 60aine de bovins lors d'une explosion dans la zone de Boni Androcro, dans le centre du pays, abritant le camp militaire de l'Oman Nord, où des soldats français conduisaient un exercice militaire, a indiqué l'armée française dans un communiqué. Les activités militaires ont été suspendues dans la zone le temps de l'enquête des autorités judiciaires ivoiriennes. Deux personnes ont été blessées par balle vendredi à Kinshasa lors de la répression d'une manifestation contre l'ouverture des débats sur la révision de la loi électorale à l'Assemblée nationale de la RDC, boycottée par des élus d'opposition. L'accord scellé avec le Royaume-Uni pour envoyer au Rwanda des migrants et des demandeurs d'asile qui a suscité la controverse. Ce n'est pas un accord sur le trafic d'êtres humains, a affirmé le président rwandais Paul Kagame. Nous ne faisons pas le commerce d'êtres humains, s'il vous plaît. Ce n'est pas le cas. En fait, nous sommes en train d'aider, a-t-il ajouté, décrivant cet accord comme une innovation mise en avant par le Rwanda. Mwai Kibaki, ancien président du Kenya et troisième chef de l'État de l'histoire du pays, est décédé à l'âge de 90 ans. C'est un triste jour pour nous. En tant que pays, nous avons perdu un grand leader, a annoncé aujourd'hui à Nairobi l'actuel chef de l'État, Uhuru Kenyatta. Monsieur Kenyatta a annoncé que des funérailles nationales seront organisées sans donner de date. Il a ordonné une période de deuil national. Les drapeaux seront à Berne à partir d'aujourd'hui jusqu'au coucher du soleil, le jour de l'enterrement. Mwai Kibaki est un ancien professeur d'économie formé en Ouganda et à Londres. Impliqué dans la politique kenyane depuis l'indépendance en 1963, il a été élu en 2002 après plus de 20 ans de règne de Daniel Arap Moi. L'Union européenne a annoncé hier une augmentation de soutien financier aux forces armées du Mozambique. L'aide supplémentaire de 45 millions d'euros portera ce soutien à 89 millions depuis novembre 2021, précise un communiqué du Conseil de l'Union européenne.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dernier jour de campagne en France avant le second tour de la présidentielle dimanche entre le président sortant Emmanuel Macron et son adversaire Marine Le Pen. Le point avec Nathalie Barge.
Avant un dernier meeting à Figeac dans le département rural du Lot, Emmanuel Macron a déclaré que les fondamentaux de l'extrême droite sont toujours dans le programme de Marine Le Pen. En visite sur le marché d'Étaples dans le Nord, Madame Le Pen a fustigé le projet de réforme des retraites impopulaire du président sortant. Les deux concurrents doivent conjurer l'abstention, rallier les indécis et les partisans du candidat de la gauche radicale Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour avec près de 22% des voix. Pour attirer les électeurs de la France insoumise, Marine Le Pen a promis de protéger les plus vulnérables, tandis qu'Emmanuel Macron opère un virage à gauche, s'engageant à mettre l'écologie au centre de son action. Quel que soit le vainqueur du second tour dimanche, les élections législatives qui suivront en juin s'annoncent d'ores et déjà comme un possible troisième tour, les deux pouvant peiner à obtenir une majorité parlementaire.
Nathalie Barge. Guerre en Ukraine. Les négociations entre Moscou et Kiev visant à trouver une solution au conflit patinent, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. Les communistes russes ont exprimé leur soutien à l'offensive lancée par Vladimir Poutine pendant que des soldats ukrainiens résistent à Mariupol. Le point de la situation avec Mohamedou Ouf.
La Russie vise le contrôle total du sud de l'Ukraine et de la région orientale du Donbass pour disposer d'un pont terrestre vers la Crimée, a indiqué ce vendredi le général Roustam Minikaïev, commandant adjoint des forces du district militaire du centre de la Russie. Le port stratégique de Mariupol, que Moscou assure avoir libéré, résiste encore aux forces russes, affirme Kiev, selon qui les combattants ukrainiens continuent de défendre avec acharnement l'immense complexe métallurgique Azovstal, où sont également retranchés des civils. Aucun couloir d'évacuation de civils ne pourra être organisé aujourd'hui en Ukraine, selon la vice-première ministre ukrainienne Irina Verechtchuk. Les négociations entre Moscou et Kiev patinent, car une proposition que nous avons remise aux négociateurs ukrainiens il y a 5 jours reste sans réponse, a déclaré le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov. À Moscou, lors d'une cérémonie marquant l'anniversaire de Lénine, environ 200 communistes se sont rassemblés près des murs du Kremlin et ont réaffirmé leur soutien à l'offensive lancée par Vladimir Poutine.
Le Kremlin a annoncé que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se rendra la semaine prochaine en Russie pour rencontrer Vladimir Poutine. Les États-Unis et l'Union européenne ont réitéré aujourd'hui que tout soutien de Pékin à Moscou pour contourner les sanctions occidentales nuirait à leur lien avec la Chine, qui avait appelé les Européens à se dissocier de Washington.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, retrouvez Mouhamadou Onfa pour la Minute Éco.
L'étendue complète des dégâts des inondations qui ont récemment frappé la côte est de l'Afrique du Sud est toujours en cours d'évaluation, mais les autorités locales ont donné une première estimation, se chiffrant à près de 44 millions d'euros. Cette estimation ne prend pas en compte la réparation des infrastructures, une facture qui se chiffrera en centaines de millions d'euros selon les autorités. Le KwaZulu-Natal, région la plus touchée, représente plus d'un sixième du PIB de l'Afrique du Sud, selon le cabinet d'audit international PwC. Les autorités tunisiennes ont annoncé vendredi que le pétrolier naufragé samedi au large du sud-est du pays était vide, écartant tout risque de pollution. Le ministère de l'Environnement, qui avait lui-même annoncé samedi que le pétrolier transportait 750 tonnes de gazole, faisant craindre une marée noire, n'a pas expliqué les raisons de cette confusion.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports. Yacouba Ouedraogo, bonsoir.
Bonsoir à tous. Le français Hubert Velut est le nouveau sélectionneur de l'équipe du Burkina Faso. Pour une durée de 2 ans, annonce la Fédération Burkinabé de football. Il remplace Kamou Malo, dont le contrat n'a pas été renouvelé. Le technicien de 62 ans a qualifié le Togo et le Soudan à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a remporté la Coupe de la Confédération en 2016 avec le club congolais du tout-puissant Mazembe. Il a aussi remporté plusieurs titres de champions nationaux en Algérie avec l'Entente sportive Sétif et l'USM Alger et au Congo avec le TP Mazembe. Il est le choix idéal au poste de sélectionneur national des étalons, affirme le vice-président de la FBF, Issa Sidibé. Les Maliens, eux, attendent toujours de connaître leur nouveau sélectionneur. 57 dossiers de candidature ont été enregistrés par la Fédération malienne de football. Dans un communiqué, la FEMAFOOT annonce que les dossiers seront dépouillés dans les meilleurs délais par une commission en vue d'une présélection. Beaucoup de défis attendent le prochain sélectionneur des Aigles, nous dit notre correspondant à Bamako, Siaka Traoré.
Il s'agira par exemple pour le nouveau sélectionneur de qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2023 et atteindre au minimum la demi-finale. Qualifier le Mali à la phase finale de la CAN 2025 et atteindre au minimum la finale. Et qualifier le Mali à la phase finale de la Coupe du Monde 2026 et atteindre les huitièmes de finale. Ce n'est pas tout. À propos du profil, le nouveau sélectionneur doit être titulaire des diplômes fédéraux ou étrangers obtenus à la suite des formations, licence à Pro CAF, licence à Pro UEFA ou tout autre diplôme reconnu équivalent. Le nouveau sélectionneur doit avoir une bonne connaissance du français, langue de travail, avoir une bonne connaissance du football africain et mondial, être porteur d'un projet sportif, être disposé à résider en permanence au Mali pendant la durée du contrat, avoir une grande capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe. Il faut rappeler que Mohamed Magasouba, l'ancien sélectionneur, a été limogé le 1er avril dernier pour manque de résultats. Et depuis, l'équipe A du football du Mali n'a pas de sélectionneur. Siaka Traoré Bamako pour VOA Afrique.
Les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions débutent ce vendredi. Deux rencontres au programme. Après le match nul 0-0 à l'aller, les Tunisiens de l'Espérance de Tunis reçoivent les Algériens de l'Entente Sétif. Il y a un choc à ne pas manquer à Casablanca entre le Raja et les Égyptiens d'Al Ahly. À l'aller, les Marocains se sont inclinés au Caire 2-1. Demain samedi, les autres Marocains du Wydad Casablanca voudront conforter leur avance à l'aller 1-0 face aux Algériens du CR Belouizdad. Toujours samedi, les Sud-Africains du Mamelodi Sundowns accueillent les Angolais du Petro Athletic. Ces derniers ont remporté la manche aller à domicile 2-1. Basketball, ici en NBA, Memphis a remonté un déficit de 26 points pour s'imposer 104-95 dans le Minnesota face aux Timberwolves et reprendre l'avantage 2-1 dans leur série du premier tour des playoffs. Pareil pour les Mavericks de Dallas, victorieux 126-118 dans la salle de Utah. Défait à domicile, les Nuggets de Nikola Jokic sont désormais au bord de l'élimination, menés 3-0 dans leur série au meilleur des 7 matchs par les Golden State Warriors, vainqueurs 118-113 dans le Colorado.
C'était la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakiza avec vous. Place au dossier du jour. Les funérailles de Patrick Yoya, jeune réfugié congolais qui a été tué lors d'un contrôle routier au début du mois d'avril, ont eu lieu aujourd'hui à l'église Renaissance Church of God dans la ville de Grand Rapids, dans le Michigan, où plusieurs personnalités de la lutte pour l'égalité raciale aux États-Unis ont fait le déplacement. Un moment très dur pour les parents de Patrick Yoya, Peter et Dorcas Yoya. Suivons au micro de notre envoyé spécial, Marius Murunga.
Et Patrick est...
Patrick était vraiment mon fils. Et souvent quand il m'appelait et quand dès que je décroche le téléphone, son appel, il me disait, papa, toi tu ne vas pas vieillir. Tu vois, souvent je me sens comme si je suis devenu ton frère. Et cela me donnait vraiment la force et la vigueur. Et Patrick était là. C'était difficile de savoir quand il était en colère, quand il était fâché, puisque même quand il était fâché, tu vas le voir entre des sourires. Et pour cela, je ne parvenais pas à le comprendre et je me disais toujours que cet enfant, c'était un enfant docile et il montre plus d'amour pour sa famille. C'est pourquoi même dans mon cœur, jusqu'à présent, je ne parviens pas à croire que Patrick est mort. Donc c'est juste que là, je ne parviens pas à croire.
Maman, comment vous vous sentez actuellement?
Ce qui est arrivé à Patrick est tellement grave et mon cœur va saigner toute la vie. Je suis tellement traumatisée que si l'un de mes enfants, parmi ceux qui me restent, va dehors, je crains qu'on vienne me dire que lui aussi a été tué.
Dans l'une de vos déclarations, vous avez dit, madame, que vous avez fui la guerre au Congo pour venir ici parce qu'ici vous pensiez que vous allez avoir la paix. Vous continuez toujours à le penser aujourd'hui?
Nous répétons à tous ceux qui veulent nous entendre que nous avons quitté l'Est du Congo à cause de la guerre, des violences et des tueries vécues tous les jours. Arrivés ici, nous avions l'espoir de trouver la paix tant recherchée. Mais voilà que notre fils trouve la mort dans un pays où il n'y a pas de guerre, un pays censé nous protéger. Mon cœur est vraiment brisé. Je suis blessée au plus profond de mon âme. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans ce monde qui pourra me faire oublier cette douleur. Ce qui m'est arrivé ne me donne plus envie de rester dans le pays. J'ai juste envie de retourner chez moi malgré la guerre. Il n'y a rien, alors rien qui peut remplacer mon fils. Patrick me manquera toute la vie.
L'enquête est toujours en cours pour déterminer la responsabilité du policier dont l'identité n'a toujours pas été révélée. Nous n'avons pas pu avoir la police de Grand Rapids qui ne souhaite pas s'exprimer sur le sujet avant la fin de l'enquête.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
15 ans après la première plainte, le volet gabonais du dossier des biens mal acquis en France a connu récemment une avancée décisive avec de premières mises en cause parmi les enfants du défunt président Omar Bongo Ondimba. Ces quatre enfants mis en examen ont contesté avoir eu connaissance du caractère frauduleux de cette fortune. Pour en savoir plus, Abdelrahman Dia a joint à Paris William Bourdon, avocat de Transparency International dans cette affaire.
Ce sont effectivement les premières dans le volet Bongo, des personnes physiques, puisqu'il y a déjà eu une mise en examen de la BNP et des mises en examen d'un avocat, d'un notaire et de différents prestataires. Donc il y a le volet français, on va rappeler qu'il n'y a pas de bien mal acquis sans le concours de compétences, si je puis dire, d'ingénieurs du droit et du chiffre. Ces premières mises en examen, évidemment, sont suivies d'autres. Alors, évidemment, pas des 56 enfants de Omar Bongo, mais d'autres enfants, je pense, les prochaines semaines, oui.
Alors, l'avocate de Grace Bongo parle de décisions scandaleuses et politiques. Les prévenus plaident l'ignorance. Quelle est votre réaction?
C'est toujours la posture de la victimisation, c'est toujours la posture de l'ignorance. Il faut s'attendre évidemment, comme ils l'ont tous fait, comme Théodoro Obiang l'a fait, à des requêtes en nullité liées à l'examen qui vont prévoir, à des manœuvres dilatoires dans tous les sens. Ce sont des gens qui ont aucune espèce d'accès, je ne parle même pas de culpabilité, mais alors à la responsabilité qui était des leurs quand ils ont commis les infractions qui leur sont reprochées. Par définition, les personnes qui sont poursuivies pour blanchiment de corruption ou détournement d'argent public, par définition, ne reconnaissent jamais, jamais les faits.
Et pour vous, quelle sera la suite de ce dossier?
Quand Théodore Obiang a été mis en examen, il y a de nombreuses années maintenant, ses avocats, toute une série de lobbyistes, de politiques, de Guinée équatoriale, relayés parfois par quelques agents de la France Afrique, on dit ça n'aboutira jamais, c'est un scandale, il a été condamné définitivement. Il ne faut pas être excès de confiance, mais on peut penser raisonnablement, oui, qu'il y aura un procès du clan Bongo, il y aura aussi un procès du versant français, c'est-à-dire tous ses complices en France et ses bénéficiaires qui en amont ont été décisifs dans la commission des infractions, en aval ont bénéficié, et puis il y aura, oui, selon toute vraisemblance, des condamnations à la hauteur de la gravité des faits.
C'était l'avocat William Bourdon.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, Raga FM 90.5 Mbujimayi, 93.5 FM Lomé, Kledou FM 90.5 Sikasso Mali, et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'Italie a obtenu, au terme d'un accord signé à Brazzaville, la possibilité d'importer du gaz congolais. Le ministre italien des Affaires étrangères, Luigi Di Maio, a indiqué que les deux étaient engagés à réaliser un programme de transition énergétique qui pourrait être bénéfique pour le Congo et l'Italie. Des explications avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'accord énergétique conclu jeudi porte essentiellement sur l'exportation du gaz congolais vers l'Italie. Luigi Di Maio, ministre des Affaires étrangères de l'Italie, s'est dit satisfait.
Aujourd'hui, ici à Brazzaville, une importante déclaration d'intenti sur la coopération entre l'Italie et le Congo dans le secteur de l'énergie et du gaz.
Saluons donc avec une grande satisfaction la signature qui a eu lieu aujourd'hui à Brazzaville d'une importante déclaration d'entente sur la coopération entre l'Italie et le Congo dans le secteur de l'énergie et du gaz. Le partenariat énergétique avec le Congo a un grand potentiel de croissance à court et moyen terme.
Après avoir signé cet accord avec le ministre congolais des hydrocarbures, Jean-Bruno Richard Itoi, le directeur général de la société Eni, Claudio Descalzi, a estimé que cette coopération était placée sous des normes écologiques approuvées en Europe.
Et on a commencé avec l'agriculture. On a déjà développé la partie d'énergie solaire pour remplacer le gaz dans la consommation, dans la production de, pour la production de l'huile, la production du gaz. Donc on est en train de faire du Congo vraiment un laboratoire pour le futur. Toutes les technologies qu'on a développées, je peux dire en Italie, on est en train de les appliquer au Congo. À Oyo, il y a un laboratoire pour l'énergie solaire, pour la transition, pour les différentes technologies.
Le ministre italien de la transition écologique, Roberto Cingolani, a expliqué que les perturbations provoquées par la guerre en Ukraine avaient poussé l'Italie à diversifier ses partenaires pour se procurer du gaz.
Grandissimi investimenti nel paese per potenziare.
L'Europe est en train d'affronter un défi très important en ce qui concerne les sources d'énergie et donc pour l'Italie et l'Europe en général, une réponse très importante nous vient de notre excellent ami qui est le Congo. Donc encore une fois, je souhaite remercier le ministre des Affaires étrangères pour le travail qu'il a accompli jusqu'ici, pour les efforts qu'il fera à l'avenir, pour accroître le partenariat entre l'Italie et le Congo dans les différents secteurs de notre intérêt commun.
Pour Jean-Claude Gakoso, ministre congolais des Affaires étrangères, la coopération entre les deux pays en matière énergétique date de bien longtemps.
On dit que l'économie moderne, c'est essentiellement l'énergie. Et je crois que l'Italie, aujourd'hui l'Italie et le Congo, confirment bien qu'ils sont sur la bonne voie. En travaillant la main dans la main, dans la recherche, dans la production du pétrole. Eni est un opérateur historique dans ce pays, mais aussi du gaz.
Le Congo dispose, selon l'OPEP, de plus de 280 milliards de pieds cubes de réserves de gaz approuvées. La société italienne Eni transforme déjà une bonne partie en électricité à Pointe-Noire. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Dernier jour de campagne pour le second tour de la présidentielle en France. Au surlendemain de leur débat télévisé, Emmanuel Macron et Marine Le Pen rivalisent d'éloquence sur le terrain pour mobiliser leurs troupes et convaincre les indécis. Hier, les dirigeants allemands, espagnols et portugais se sont immiscés dans la campagne en appelant les électeurs français à faire barrage à l'extrême droite. Sur cette question, une analyse de Louis Quemayou, journaliste politique en France, joint par Nathalie Barge.
Je ne sais pas si aujourd'hui on est encore dans un schéma de crainte par rapport à ce que diraient les partenaires de la France, Marine Le Pen, qui est une candidate d'un parti d'extrême droite arrivée au pouvoir. Pendant plusieurs années, il y a eu un vote où les gens disaient que c'était un vote de colère pour le Front National, mais le vote s'est normalisé, il s'est décomplexé, et les gens assument aujourd'hui de voter pour le Front National, que cela plaise ou pas, à la fois sur le plan national et sur le plan international. Par ailleurs, il y a eu déjà des candidats comme Orban ou d'autres, Donald Trump aux États-Unis, au Brésil, Bolsonaro, qui sont arrivés au pouvoir et cela n'a pas changé grand-chose dans l'état d'esprit des candidats d'extrême droite. Et donc la montée des nationalismes en Europe et en France fait qu'aujourd'hui, même si cela pouvait être mal perçu par les partenaires de la France, je pense qu'il y a un certain nombre d'électeurs en France qui ne sont plus complexés par rapport au fait de voter pour le Front National et donc de briser le mythe du Front Républicain qui devrait être une digue pour empêcher le Front National d'arriver au pouvoir.
Un petit mot sur l'Afrique, hein, vous l'avez dit tout à l'heure, ils n'ont pas dit grand-chose là-dessus. Pour le bilan d'Emmanuel Macron sur cette question et les propositions de Marine Le Pen, qu'est-ce que vous en pensez s'il y en a ?
Sur les programmes, aujourd'hui, les deux se rejoignent parce qu'ils sont dans le rejet des partis traditionnels qui ont dirigé sous la Ve République depuis au moins 50 ans la France de façon alternée. Et donc là, ils se retrouvent. L'UMPS, qui était la formule qu'utilisait d'abord Jean-Marie Le Pen, puis sa fille Marine Le Pen, pour disqualifier les deux partis majeurs de la vie politique française, est une formule aujourd'hui qui est reprise par Emmanuel Macron et son mouvement. Quand il dit qu'il doit être en même temps de gauche et de droite, et passer les clivages partisans pour servir les Français. Donc quelque part, ce sont des jumeaux qui n'ont pour seule différence que le fait d'être à l'extrême pour l'une et d'être du centre pour l'autre. Mais dans le fond, les deux se ressemblent. Marine Le Pen et l'ancien Front National, qui est devenu le Rassemblement National aujourd'hui, ont fait tout le boulot de disqualification des partis de droite et de gauche traditionnels qui a permis que le président Macron soit élu en 2017. Aujourd'hui, ils se retrouvent face à face l'un et l'autre. Et c'est l'évolution simplement dans la conception idéologique des partis politiques qui fera peut-être la différence. Et pour le moment, il est très difficile de présager de ce qu'il en sera. Sur le plan de la participation, si les électeurs continuent d'être dans l'abstention comme ils l'ont fait au premier tour, vu la détermination, vu la discipline qu'il y a dans les partis extrêmes, il est fort possible que cela profite à Marine Le Pen. Mais s'il y a un sursaut républicain pour donner sens et forme au Front Républicain, peut-être qu'Emmanuel Macron aura droit à un second mandat à la tête du pays. Mais pour le moment, c'est très difficile de prévoir dans quel sens ou dans quel autre la balance va pencher ce dimanche.
C'était le journaliste franco-camerounais Louis Quemayou. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Georges Léonard Sagnon, Jérémy Omed, Yonamila Gahima. À la présentation, Eric Manirakiza, ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com, sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Excellent week-end à vous tous et à la prochaine.
VOA Afrique.